Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour le journal en français facile. C'est Sylvie Berruet qui va le présenter avec moi. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous.
Dans le Caucase, des combats ont éclaté entre forces azerbaïdjanaises et la région séparatiste du Haut-Karabakh, faisant au moins une vingtaine de morts. L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient au bord de la guerre aujourd'hui.
Le nom du Premier ministre de transition dévoilé au Mali, il s'agit de Mokhtar Ouane, ancien ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères.
Cet échange de prisonniers massif au Yémen, près de 700 rebelles et 400 membres des forces gouvernementales sont concernés par cet accord dont se félicitent les Nations Unies.
Et puis en France, élection sénatoriale aujourd'hui, la majorité à droite sort confortée de ce scrutin.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
De violents combats ont éclaté ce dimanche dans le Haut-Karabakh.
Oui, c'est une région disputée depuis de longues années entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Une région peuplée en majorité d'Arméniens et qui a fait sécession.
Au moins 23 personnes sont mortes, dont 7 civils.
L'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh ont décrété une loi martiale. Cela permet à l'armée d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité.
Les différentes parties se rejettent la responsabilité de la reprise du conflit. Les précisions d'Arim Lipold.
Une contre-offensive selon l'Azerbaïdjan, une déclaration de guerre d'après l'Arménie. Les deux parties se rejettent non seulement la responsabilité de ce regain de violence, elles se vantent aussi d'avoir infligé de lourdes pertes à l'adversaire. Les autorités de Bakou affirment avoir tué 16 soldats séparatistes et conquis plusieurs villages sous contrôle arménien. Quant aux séparatistes, ils disent avoir détruit, entre autres, plusieurs hélicoptères, des drones et des tanks. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé la population à se tenir prête à défendre la patrie sacrée, selon ses termes. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, de son côté, a promis la victoire de son armée. La cause qu'il défend est juste, a-t-il ajouté. Le spectre d'un nouveau conflit violent entre les deux belligérants qui se sont livrés une guerre sanglante au début des années 90 inquiète les pays voisins et les Européens. La Russie, la France et l'Union européenne ont appelé un cessez-le-feu immédiat et à la reprise de dialogue. Le ton est différent à Ankara, où le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis un soutien total à son allié azerbaïdjanais.
En Biélorussie, 200 personnes arrêtées aujourd'hui lors de manifestations de l'opposition.
C'est ce qu'indique une porte-parole du ministère de l'Intérieur. Près de 150 personnes avaient déjà été arrêtées hier.
Malgré la répression policière, les Biélorusses se sont encore mobilisés massivement ce dimanche, comme tous les week-ends depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko.
Le président biélorusse, dont la légitimité n'est pas reconnue par l'Union européenne et les États-Unis.
Un journal en français facile.
Au Mali, Mokhtar Ouane dirigera le gouvernement de transition.
Ancien ministre des Affaires étrangères, il a été nommé Premier ministre aujourd'hui.
L'information a été officiellement confirmée par une annonce de la télévision publique. Les précisions de Florence Maurice.
C'est cet après-midi que le nouveau président par intérim, Bandao, a signé le décret de nomination. Mokhtar Ouane dirigera donc le gouvernement de transition au Mali. Son nom a mis du temps à émerger parmi les favoris, mais depuis hier, c'est lui qui semblait tenir la corde au terme de plusieurs jours de tractations intenses. Il n'est pas issu du M5, cette coalition fer de lance de la contestation contre l'ex-président Ibeka, dont plusieurs leaders estimaient qu'à ce titre, le poste aurait dû leur revenir. Mais il s'agit bien d'un premier ministre civil, comme le réclamait la communauté ouest-africaine. Originaire de la région de Mopti, dans le centre du pays, Mokhtar Ouane a 64 ans. C'est un diplomate réputé expérimenté. Il a représenté le Mali pendant 7 ans comme ambassadeur aux Nations Unies entre 1995 et 2002, avant d'être ministre des Affaires étrangères sous différents gouvernements pendant 7 ans, 2004-2011. Depuis, il était en retrait de la scène politique nationale, devenu fonctionnaire de l'Union monétaire et économique ouest-africaine. Pour son retour au pays, la tâche qu'il attend maintenant n'est pas des moindres, former un gouvernement capable de conduire aux côtés du président et du vice-président son pays jusqu'à des élections législatives et présidentielles sous 18 mois et tourner ainsi la page du coup d'État. Florence Maurice, Bamako, RFI.
Vous Vous écoutez RFI, il est 22h05 ici à Paris, où Emmanuel Macron a eu des mots très durs aujourd'hui envers les dirigeants libanais.
Oui, lors d'une conférence de presse, le président français a parlé d'une trahison de la classe politique. Elle n'a pas respecté, selon lui, les engagements pris devant la communauté internationale.
Emmanuel Macron qui donne 4 à 6 semaines à la classe politique pour former un nouveau gouvernement et réaffirme l'engagement de la France aux côtés du peuple libanais.
Et le chef de l'État français a également parlé de la tenue d'une conférence avec les Nations Unies d'ici la fin octobre.
Après une semaine de discussion en Suisse, le gouvernement yéménite et les rebelles houthis se sont mis d'accord sur un échange de prisonniers.
Oui, 1081 personnes, c'est précis, sont concernées. Près de 700 rebelles et 400 membres des forces gouvernementales.
Un échange des plus importants dans l'histoire de cette guerre, selon l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths.
Je suis personnellement très satisfait d'être ici et d'annoncer que vous avez franchi une étape importante. Vous avez réitéré votre engagement en faveur de la mise en œuvre complète de l'accord de Stockholm. Vous êtes mis d'accord pour libérer immédiatement 1081 personnes. Et vous vous êtes mis d'accord pour vous réunir à nouveau afin de discuter d'autres libérations dans le cadre de votre engagement de libérer tous les prisonniers et détenus liés au conflit, y compris ceux mentionnés dans la résolution du Conseil de sécurité. Nous savons tous qu'il est essentiel d'avancer rapidement et avec fermeté vers la mise en œuvre de l'accord. Nous n'avons pas de temps à perdre. La libération des 1081 personnes représente la plus large opération de ce genre dans l'histoire du conflit du Yémen.
Et dans le cadre d'un accord de paix parrainé par l'ONU et conclu en Suède en 2018, le gouvernement et les rebelles houthis ont convenu d'échanger au total 15 000 détenus. En Espagne, cette manifestation contre le reconfinement partiel pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
Des mesures qui s'appliquent dans plusieurs quartiers populaires de la région madrilène.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement local. Ce n'est pas du confinement, c'est de la ségrégation, ont évoqué les manifestants.
La région de Madrid, Charlotte, qui annonçait une extension de ses mesures de restriction à d'autres zones pour tenter de limiter la circulation du virus.
Ah oui, près de 167 000 personnes supplémentaires sont concernées. Ils ne pourront sortir uniquement pour aller travailler ou bien se rendre chez le médecin.
Et des mesures jugées insuffisantes par le gouvernement central qui appelait à les appliquer à toute la capitale.
En France, élection sénatoriale aujourd'hui, 87 000 grands électeurs votaient pour élire la moitié des sénateurs.
Et sans surprise, la Chambre haute reste majoritairement à droite.
Et c'est Véronique Rigolet qui nous en parle.
Pas de bouleversement au Palais du Luxembourg qui reste arrimé à droite, fort du solide ancrage territorial des Républicains. Le patron du Sénat, Gérard Larcher, a été le premier à s'en réjouir dimanche soir, avant même que tous les résultats ne soient tombés, pour saluer une majorité de droite et du centre confortée. Une victoire qui assure à Gérard Larcher une réélection pour un quatrième mandat la semaine prochaine à la présidence du Sénat. Défait au municipal, l'AREM, le parti du président, sauve de son côté tout juste les meubles. Le patron du groupe macroniste, François Patriat, est ainsi réélu sur le fil avec une petite centaine de voix. Les écologistes confirment leur poussée électorale dans les territoires et devraient pouvoir reconstituer un groupe avec au moins 10 sénateurs, gagnant ainsi plus de pouvoir et de visibilité à la Chambre haute. Enfin, contre toute attente, malgré sa défaite aux dernières municipales à Marseille, le sénateur RN Stéphane Ravier est réélu au Sénat, unique représentant du parti de Marine Le Pen à la Haute Assemblée. Et il sera seul aussi, pour la première fois, un nationaliste corse. Paul Toussaint Parigi accède au Sénat après avoir été élu en Haute-Corse.
Précision signée Véronique Rigolet. Un mot de cyclisme, le français Julien Alaphilippe est devenu champion du monde aujourd'hui.
Oui, il a remporté la course en ligne à Imola, c'était en Italie. Merci à vous Charlotte.
Merci Sylvie, c'est la fin de ce journal en français facile.